Et donc notre invité, à savoir Joël Bertrand, un ami des livres, comme il aime à se définir, et qui est tombé en amour sur un roman de Peter Weiss. Peter Weiss, cet auteur allemand décédé en 1982, qui, pour cause d'origine juive, avait été obligé de se réfugier en Suède, notamment. D'ailleurs, c'est en Suède qu'il est décédé. Et un de ses romans est intitulé « L'esthétique de la résistance ». Préciser que Peter Weiss était aussi un dramaturge, un écrivain, il dessinait aussi, me semble.
Peintre, ben, voilà, oui. Metteur en scène et oui. Cinéaste également.
Oui, oui, mm-hmm. Puisque voilà. Et donc, Joël Bertrand a eu vraiment un coup de foudre en lisant ce livre et il a envie de le faire partager. Et pour ce faire, mais notamment à partir de la semaine prochaine, il y aura des lectures, des extraits, puisque c'est quand même, il y a 3 volumes dans ce roman, des extraits de lectures dans différents lieux toulousains, dont la semaine prochaine ce sera au Goethe, mais il y aura aussi à la Cave Poésie. Donc c'est comme ça tout un parcours littéraire autour de l'esthétique de la résistance Peter Weiss et aussi, je précise qu'il y a un enregistrement de ces lectures et qui seront diffusées sur Canal Sud à partir de la semaine prochaine, donc du 27. Alors ce sera tous les vendredis soirs de 19h à 20h. Et donc, il y a combien d'épisodes ?
21 épisodes,
donc c'est un certain temps. Donc, il y aura un rendez-vous comme ça de 19h à 20h tous les vendredis.
21 fois 1 heure, donc que ce soit pour la radio ou que ce soit pour la lecture en public. Il y aura 21 lectures de à peu près 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure.
Donc, comment avez-vous rencontré Peter Weiss ? C'était la première fois que vous lisiez l'ouvrage de lui ? Vous aviez lu du théâtre
Non,
parce
le théâtre, oui.
Qu'il est connu pour Barassa, de notre
Oui, oui, voilà. Oui, bien sûr, comme c'est un peu générationnel, les gens de ma génération se rappellent donc avoir vu, soit au théâtre, soit pour la plupart d'entre nous, au cinéma, mise en scène par Peter Brook. Ça devait être en 71 ou 72 peut-être, donc la pièce Marassade qui avait été donc tournée pour le cinéma par Peter Brook. Et donc là, c'est le souvenir que j'ai de Peter Weiss, également la lecture de quelques pièces dont ce qu'il appelle des oratorios, notamment sur les procès, le procès de Francfort, donc procès où il met en scène des anciennes nazis.
Oui, puisqu'il a assisté à ces procès.
Oui. Il en a fait un oratorio. Bon. Et quelques romans également, dont un roman extraordinaire qu'on a un peu oublié parce qu'il n'est pas réédité. C'est un roman autobiographique qui s'appelle Point de fuite, malheureusement, aux éditions du Seuil, traduit par Jean Baudrillard.
Il a beaucoup traduit. Baudrillard a traduit beaucoup d'ouvrages de
Baudrillard est l'introducteur de Peter Weiss en France. Uh-huh. Oui. Baudrillard s'est rendu compte de l'importance de cet auteur, la manière dont il était mésestimé, et il a essayé un peu de le promouvoir. Donc voilà, Marassade a un peu mis comme ça Weiss un peu dans l'actualité, mais il a de suite été très rapidement oublié. Mmh. Alors l'esthétique de la résistance, c'est une histoire un peu compliquée. Si j'ai le temps, je vais juste donner un petit peu l'historique de cette édition. C'est un livre qui fait 1000 pages, donc vraiment 1000 pages. Trois volumes. Donc, qui a été réédité en 2017 aux éditions Klingsig, donc qui est l'éditeur original.
Qui a été écrit entre 1971 et 1981.
C'est ça. Il a mis, évidemment, 1000 pages, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, il a énormément travaillé dessus, il a cherché à rencontrer, on y reviendra, là, sur la notion de témoignage. Mmh. Et donc, ce livre de 1000 pages, il a été, entre guillemets, découvert par sa traductrice qui s'appelle Eliane Kaufholz-Messmer, qui est une universitaire parisienne qui était donc spécialiste de l'allemand, de la littérature allemande, et qui est tombée elle aussi amoureuse de ce livre, et qui a cherché à le faire connaître, qui a donc commencé de son propre chef et en freelance, on peut dire, sans être sûr que ce travail déboucherait sur quelque chose. Elle a commencé à traduire. Donc l'esthétique de la résistance, très très difficile à traduire. Elle le traduit, elle le propose aux grands éditeurs qui sont censés publier de la littérature traduite, Gallimard, Le Seuil, et tout le monde le refuse. Et donc, en désespoir de cause, elle enterre le projet. Et il se trouve que l'esthétique de la résistance, par beaucoup de côtés, c'est une histoire de l'art. Une vaste histoire de l'art qui commencerait à l'époque de l'Antiquité, qui irait à peu près jusqu'à la période contemporaine de Peter Weiss, du moment du récit, c'est-à-dire Guernica de Picasso, qui termine un petit peu le parcours dans l'histoire de l'art. Et donc, il y a un ami d'Eliane Kaufholz-Messmer qui a dit « Mais pourquoi pas le proposer à un éditeur d'art et le faire, entre guillemets, passer comme un sous-marin, le faire passer pour un livre d'art ?» Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et finalement, Klingsig, sans trop savoir où ils allaient, ils ont décidé de publier ce livre. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait tout à fait... Bon, parce que c'est quand même un allemand très, très difficile, un livre qui n'allait pas se vendre beaucoup. Qui devait coûter très cher au point de vue relecture, correction, et donc le travail s'est un petit peu arrêté en cours. Moi, je ne critique pas cette manière de ne pas avoir tout à fait achevé le roman, la publication, le travail de l'éditeur n'a pas été tout à fait achevé, mais on ne peut pas le critiquer parce que c'est déjà tellement formidable de nous avoir permis de le lire et que le livre soit disponible pour le public français. Voilà. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai, par une amie, donc m'a signalé la réédition de ce livre, qui à ce moment-là, je me suis rué dessus et j'ai de suite entendu à la fois une langue qui était orale, enfin qui pouvait devenir très très fortement orale, et surtout ce que j'ai entendu, c'était la répétition de ce que nous vivons aujourd'hui. Je parle vraiment sur le plan politique. Je me souviens d'un universitaire toulousain qui s'appelle Gérard Garnel, que déjà on connaît, c'est un autre philosophe, donc qui était enseignant au Mirail, et qui disait « les années 30 sont devant nous ». Il disait ça dans les années 90. Et je me dis, ben voilà, Peter Weiss et l'esthétique de la résistance fait un peu l'état de la lâcheté, du renoncement. Du renoncement, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un catalogue des conséquences du non-respect du devoir de révolte. Hein, voilà, c'est ça. Et les lâchetés ont conduit au fascisme, à toutes les formes de fascisme. Dans ces années entre 1937, le moment du début du récit, et 1945, la victoire surtout des industriels et des grands trusts. Mmh. Et donc, cet aspect d'actualité qui m'a vraiment touché face à l'espèce de vide, de creux de la littérature contemporaine, enfin de manière générale, si vous voulez, c'est le nombrilisme ambiant, l'espèce de repli sur soi, sur l'esthétique sans résistance, je dirais, qui fait qu'à un certain moment, ce genre de livre vous concerne, vous dit, mais enfin, il faut absolument le faire connaître, il faut faire entendre cette voix, voilà, c'est un petit peu ce qui nous a guidés.
Mmh. Voilà. Puisqu'il y a des allusions aussi au mouvement ouvrier allemand,
à
son échelle, la République de Weimar, enfin, il y a comme ça tout un parcours dans l'histoire. Quoi.
Dans l'histoire, tout à
dans
fait.
Dans l'histoire et ce que, comment dirais-je, ce que certains événements provoquent comme résultat résultat, si on peut dire. Enfin, c'est selon quoi. Et donc, c'est une piste aussi de réflexion.
Mm-hmm, c'est ça.
Et puis de réflexion aussi sur l'art et sur ce qu'est l'art aussi.
Oui, il y a vraiment un lien très fort entre l'art et, non pas la politique, mais l'art et l'engagement, l'art et le fait que, comment dirais-je, que l'histoire de l'art, pour lui, elle est totalement parallèle à l'histoire humaine. Il parle souvent de spirale, d'ailleurs. Il y a l'image de la spirale. C'est pas tellement l'idée de parallèle, mais c'est l'idée que quand on a une spirale, on a un moment où on revient sur... c'est une idée de cycle, si vous voulez.
Oui,
à la fois,
oui.
On avance dans le temps, et à la fois, on revient sur un cycle. Oui. Et cette spirale montre que l'histoire de l'art est une histoire de l'asservissement au départ, quand on parle des grands... Ben, je sais pas, les grands travaux, les pyramides, les grandes fresques de la culture hellénistique, etc. Toutes ces grandes œuvres qui ont mobilisé des milliers d'hommes dans des conditions proches de l'esclavage.
Certains qui en sont morts aussi.
Voilà, bien sûr, des centaines de morts, etc. C'était plutôt des camps de concentration où les gens extrayaient des pierres, les travaillaient, etc. Et puis, progressivement, l'artiste s'émancipe. Mmh. Hein, très progressivement, l'artiste ne rend plus de compte à un maître, mais commence à s'émanciper. Mmh. Et là, il y a une bascule, c'est-à-dire qu'à tout d'un coup, le danger, ce n'est plus l'asservissement de l'artiste, mais c'est le fait que l'artiste va se déconnecter de la société, rentrer dans une sorte d'élite, être reconnu comme une sorte une force intellectuelle et artistique, créative, qui va le déconnecter des réalités. Et le danger de cette émancipation, et ça, Weiss insiste beaucoup dessus, c'est le nombrilisme. Ce qui est en gros, pour moi en tout cas, je dirais, sans mettre trop de pain, c'est à peu près le visage de l'art aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Hein. C'est un art qui se satisfait de lui-même, si vous voulez. Hein. On a renoncé globalement à un art engagé,
Il faut pas trop généraliser, il faut quand même.
Non, bien entendu. Il y a des contre-exemples, il n'en manque pas, bien entendu. Mais quand même, globalement, l'esthétique de la non-résistance qui domine aujourd'hui, c'est une esthétique de la forme, vous voulez, de la forme pour elle-même. Quoi, voilà. Là, c'est pas tellement je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, cette émancipation de l'artiste a accompagné la tentative d'émancipation de la classe ouvrière, des pauvres, de ce que Weiss appelle ceux d'en bas. Mmh. Sans arrêt, il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ce n'est pas du tout un manichéisme un peu stupide et caricatural. C'est réellement aussi une manière de surplomber l'histoire de l'humanité, si vous voulez, sur deux millénaires. Donc on va trouver des grandes scènes, par exemple, de description de la frise de l'hôtel de Pergame qui débute le roman et qui est une sorte de... Enfin, la description d'un moment où les hommes se battent entre eux au service, se battent entre eux pour des dieux qui sont les mêmes, qui peuvent changer de... Il y a un qui a un casque rond, l'autre il a le casque carré, mais ce sont
changer de nom ou de visage, mais c'est toujours...
Voilà, oui, voilà. Et donc les gens s'entretuent entre eux, et ils s'entretuent, ceux d'en bas, et ils ont été représentés dans cette frise par des artistes anonymes, donc frise qui a été ensuite retrouvée au XIXe siècle et amenée à Berlin, après avoir été achetée, donc pas très cher d'ailleurs, par Guillaume, donc, et ensuite on a construit un bâtiment exprès donc, pour cette frise qui a été reconstituée dans son espace, dans son volume originel, même s'il y en manque des morceaux. Et le morceau majeur qui manque, c'est Hercule. Mmh. Hercule, il y a juste l'empreinte de la place d'Hercule dans la frise, mais il n'y est pas. Et tout le livre est aussi sous la figure d'Hercule. Hercule qui représente aussi la révolte, qui représente la manière, un peu à la manière de Prométhée, la façon dont le feu ou la force a été retirée, a été amenée des dieux vers les hommes. Voilà, et ça c'est un peu Hercule aussi, cette force de révolte que représente Hercule. C'est un des éclairages du livre qu'on suit tout le long, donc des différents parcours, entre 1937 donc, et 1945, avec des étapes donc, à Berlin, alors, les lieux, donc Berlin, l'Espagne, puisque le narrateur,
la guerre d'Espagne.
Voilà, il y a 5 chapitres sur la guerre d'Espagne. L'Espagne, ensuite Paris au moment des accords de Munich, avec la lâcheté du gouvernement Daladier, etc. Enfin, toute cette histoire-là, la répression des grèves, des mouvements ouvriers en France dans les années 38. Puis ensuite, le narrateur est obligé de partir en Suède. Et le reste du livre se passe en partie à Stockholm, avec un retour à Berlin, ou dans une scène qui nous plonge complètement dans l'esthétique de l'enfer de Dante. La mise à mort donc des membres de l'Orchestre Rouge, qui ont été liquidés en 1942 dans la prison de Plötzensee à Berlin. Et donc cette scène absolument... à la limite, moi personnellement, je ne pourrais pas le lire. Je ne pourrais pas le lire, je crois que ma voix n'arriverait pas à... Bon, mais nos deux lecteurs, on arrive à le lire parce qu'ils l'ont beaucoup travaillé, mais il y a une sorte d'émotion qui monte immédiatement, qui est à peine tenable, quoi.
Voilà. Oui, donc, voilà, parce que vous avez lu le livre, vous avez pensé qu'il était fort pertinent de le faire, de faire connaître cette œuvre, de le faire découvrir, donc de le partager. Et donc pour ce faire, vous avez demandé à deux personnes, une dame et un monsieur, de lire et d'enregistrer. Et donc là, il y a 21 épisodes.
Voilà, il a fallu donc, c'est ça.
Ce sont des comédiens ou non ?
Ce sont des comédiens amateurs ou semi-professionnels. L'un est enseignant de théâtre qui vivent en Ariège, tout ce petit monde vient d'Ariège, moi-même j'y vis aussi. Et puis pour un peu, sur les conseils de Yann Valade de la Cave Pau, il nous a suggéré de faire de ces lectures des lectures musicales. Pour essayer
y compris dans l'enregistrement ?
Non, dans l'enregistrement, non.
Les lectures...
Oui, dans l'enregistrement pour la radio, ce sont des lectures avec juste une musique de fond, si vous voulez. Mais il n'y a pas encore l'intervention du musicien, qui est un improvisateur très chevronné, qui joue de la contrebasse.
C'est qui ?
Il s'appelle Gérard Frickmann. Et pour les lectures...
Dans des lectures musicales.
Voilà, pour les lectures publiques, il y aura une contrebasse donc, qui a travaillé des thèmes autour de...
Mais comment allez-vous, puisque bon, il y a 20 heures, donc vous allez faire...
21,
excusez-moi, je suis fâchée avec les chiffres. Donc vous allez, présenter ce texte dans différents lieux de Toulouse, différents lieux culturels.
Oui.
Donc il y aura un épisode par...
Au départ, moi j'avais...
Non, la semaine prochaine, c'est le Goethe déjà.
Ça, c'est... Voilà. Alors, le Goethe nous a beaucoup aidé, nous a servi un peu d'introducteur pour pouvoir toucher d'autres structures. Ce recommandant du Goethe Institut, il y a des portes qui s'ouvraient un peu.
Oui, quand même.
Oui, parce que personne ne connaît. Moi-même, on ne me connaît pas. Bon, ou quelques personnes me connaissent dans le milieu du livre, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de la scène culturelle toulousaine. Et donc, j'étais très agréablement surpris que le Goethe, sans me connaître, prenne ce projet et dise oui, on vous accompagne. Donc, on a dit, on va faire le prologue et l'épilogue chez Goethe. Donc le 1 et le 21 seront lus au Goethe Institut.
C'est dans la cave du Goethe ?
Oui, dans la salle de spectacle en bas. Donc sur 9 mois, de septembre à juin, et ensuite de manière symétrique, parce que je voulais essayer de faire l'effet un peu de la coupole inversée de l'enfer de Dante.
Ouais.
Donc par deux, si vous voulez, vous avez de manière symétrique, le 2 et le 20 seront lus dans un endroit, mettons à la cave poésie, au théâtre du pavé, de manière symétrique. Et au centre, au milieu de cette symétrie, il y a 5 jours d'affilée au théâtre du Grand Rond, pour une semaine, donc du mardi au samedi, et ça représente le milieu du cycle. Donc,
et ça sera dans ce qu'ils appellent avant 21h, entre oui, 19h et 20h.
C'est ça.
Dans la salle d'accueil. Quoi.
Dans la salle d'accueil, d'accord. C'est ça.
Donc ce sera un rendez-vous quotidien, durant une semaine.
Au mois de février.
D'accord. Après, et ce seront toujours les mêmes personnes qui liront ?
Oui, oui.
Les deux personnes qui ont enregistré, c'est bien ça ?
Oui, d'accord. Avec qui on a travaillé, on a énormément travaillé. D'abord, le découpage, l'oralisation d'un texte qui est quand même écrit normalement. C'est très écrit, c'est très littéraire.
Oui,
c'est un texte, je dirais, plombé, dense. On peut dire plombé. Hein. Je dois prévenir vos auditeurs que s'ils veulent rire, il vaut mieux pas et directement. C'est pas un livre drôle, c'est un livre terrible. C'est un livre terrible
de par la un livre de réflexion, mais exactement. Par la thématique.
Oui, il y a pas d'humour ou très peu. Parfois il y a des touches d'humour, mais c'est très léger, c'est très désabusé, c'est un humour même pas un humour noir, je dirais un humour sinistre, un humour dans l'horreur, quoi, comme on peut imaginer. Voilà. Et donc, effectivement, la pensée de Dante m'a un peu inspiré cette idée d'une coupole et d'une symétrie dans les 9 lieux. On va trouver 3 librairies, on va trouver...
Vous pouvez les donner dans la semaine prochaine, le Goethe. C'est jeudi, c'est ça, le 26 ?
C'est jeudi prochain.
À 20h ?
18h.
18h au Goethe.
Après, il y a le Théâtre du Pavé, il y a la Chapelle, il y a donc la Cave Pau, la librairie Flouri, la librairie Terra Nova, la librairie du Mirail, donc Mirail Université.
Oui, c'est-à-dire la bibliothèque universitaire ?
Non, la librairie qui a au...
Renaissance ?
Non, ça s'appelle Mirail, Études Mirail.
Ah oui, d'accord, pardon. D'accord.
Donc pour toucher aussi les étudiants du Mirail, on a cherché vraiment des lieux qui puissent mélanger les publics. Hein. Il y a la médiathèque Cabanis, et je crois que c'est tout, ça fait 9 lieux, donc 9 lieux.
Et le Grand Rond que vous avez.
Et le Théâtre du Grand Rond, donc bien sûr.
Et donc ça échelonné tout au long de l'année...
Sur 9 mois.
2019-2020, quoi, la saison
c'est
culturelle.
Ça, c'est ça, sur 9 mois, donc avec peut-être... C'est pas régulier, parce que c'était pas si facile de caler des dates de manière régulière, mais en gros, voilà, il y aura une lecture toutes les 3 semaines à peu près.
Dans une lecture musicale.
Voilà.
Et donc chaque fois, deux épisodes dans chaque lieu,
mais séparés par cette symétrie de cette sorte de coupole que m'a inspiré la référence constante à Dante, qui est évidemment sans cesse sollicité, quoi.
Et est-ce que, puisque notamment la première présentation, la première lecture aura lieu au Goethe, est-ce qu'éventuellement, après, il est prévu qu'il y ait des discussions autour de l'œuvre et de Peter Weiss ?
De Peter Weiss, de l'œuvre, du roman en général. C'est-à-dire que, on l'a déjà donc donné ses lectures en public, en Ariège, pendant la lecture, et ensuite les gens se reprennent un peu et pose des questions, non, la plus celle qui vient de suite, mais enfin, ce n'est pas un roman. Mm-hmm. Hein, voilà. Non, ben, c'est un roman. C'est un roman. Mm-hmm. Ça respecte tous les critères du roman. C'est un roman parce qu'il y a une construction romanesque, parce qu'il y a un travail sur le temps qui est totalement romanesque. Et il y a évidemment, les spécialistes de Weiss l'ont noté, il y a une référence, un hommage à Proust. Mm-hmm. Puisque le narrateur fait une boucle, hein. C'est la boucle proustienne qui projette tout à fait à la fin de la recherche, qui projette le narrateur dans l'écriture du début. Mmh. Hein. Et là, il y a la même chose. Le 8 mai 1945, le narrateur entend les cris de joie, les feux d'artifice, et il se rend compte de la trahison qui est derrière, tout ce qui se prépare, les reniements, les gens qui vont tourner leur veste, etc., l'industrie qui va redémarrer. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il est appelé par l'écriture et il sent qu'il est un témoin. Il a tellement vu, il a tellement entendu la guerre d'Espagne, toutes ces horreurs qu'il a vécues, sa mère qui a traversé l'Europe en débâcle, il y a des scènes sur la mer et la mort de la mère qui sont absolument extraordinaires. Bon, un moment où il est tellement saturé d'horreur qu'il se sent l'obligation de témoigner. Mm-hmm. Et c'est là qu'à la fin, tout à fait à la fin, cette boucle est amorcée, il nous annonce le début, et ça finit avec la figure d'Hercule qu'on retrouve tout à fait au début du roman. Cette boucle proustienne qui est vraiment... Et la temporalité extrêmement complexe, c'est ça qui est formidable, et qui fait que c'est du roman, c'est-à-dire qu'il arrive à maintenir dans une même phrase, vous avez 3 ou 4 niveaux temporels qui sont... qui sont en poupée russe. Hein.
Pouvez-vous dire le nom des personnes qui vont le lire ? Puisqu'il alors, y aura donc, oui. Notamment sur les ondes de Canal Sud, il y aura comme ça un rendez-vous tous les vendredis entre 19 et 20 heures.
Voilà, donc Isabelle Audio, qui est la lectrice, Gilles Flaschenberg, le lecteur, et puis donc pour les lecteurs publics, Gérard Frickman, contrebassiste.
Donc ça sera la première, si je puis dire, ça sera au Goethe la semaine prochaine, le jeudi 26, c'est bien ça, à 18h. Voilà, ça c'est une chose. Donc le rendez-vous à partir du 27 septembre sur les ondes de Canal Sud entre 19h et 20h, donc pour chaque fois des chapitres du roman L'esthétique de la résistance de Peter Weil aussi, alors vous n'allez pas vous mélanger j'espère, mais puisque ça aussi allait à la CAF Poésie à partir de lundi, donc du lundi 23 à 10h tous les lundis, là aussi ça se chaînera pratiquement sur 6 mois me semble-t-il, mais là ça durera que 30 minutes et il y aura une lecture d'un journal qui a été écrit durant la guerre d'Espagne et c'est puisque cette année la CAF Poésie a décidé de beaucoup travailler autour des 80 ans de la retirada et donc c'est quelqu'un qui a participé donc à la guerre d'Espagne et qui a écrit et donc le premier rendez-vous radiophonique c'est lundi 23 à 10h et ça dure des fois c'est 29 minutes des fois c'est 35 ça voilà donc vous aurez deux rendez-vous en fait le lundi avec centré sur la guerre d'Espagne, mais enfin, c'est la grande et la petite histoire donc, qui seront évoquées, et dont le vendredi, des extraits l'esthétique de la résistance de Peter Weil. Voilà.
De larges extraits.
Oui, mais quand je dis extraits, c'est...
Oui, c'est la moitié, ça représente la moitié du roman.
Voilà, oui. que voulais-je dire aussi ? Dire que tout à l'heure, il y aura Claire, ce sera la première émission d'avant. Toutes, donc de 15h à 16h en direct avec lecture de textes par une comédienne et donc elle fera son émission une fois par mois lundi une émission de Marion à 20h-21h c'est ça, et aussi juste peut-être préciser avec l'association Toulangue ce qui se passe le troisième mercredi du mois dans la salle de Canal.
Oui, donc ça s'est passé mercredi dernier, donc c'est un atelier de pratique du français, de la langue française pour les étrangers qui l'apprennent, peu importe leur niveau. Il y a des bénévoles donc, de l'association Toulangue qui accueillent avec un thé ou une tisane les personnes qui voudraient pratiquer pendant 1h30 le français, donc 18h30 à 20h, le troisième mercredi du mois. Alors, je crois que le prochain, ce sera le 23 octobre, si ça tombe un mercredi, ça doit être ça.
D'accord. Donc, tout à l'heure, Claire, je crois que nous avons fait le tour, si ce n'est que là, il y a le bazar chez René, donc rencontre avec des éditrices et des éditeurs de la région, mais pas que, avec des petits spectacles, des lectures aussi à la CAF Poésie. Bon, bien sûr, les journées du patrimoine, les journées du matrimoine aussi, j'y tiens. Et je crois que. Il y a aussi les allées céramiques, donc comme son nom l'indique, ce sont des céramistes qui exposent, et ça, c'est ce week-end, et c'est sur les allées. Forêt François Verdier. Je crois que j'en ai fini. Merci, grandement merci à Marion et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Joël Bertrand d'être nous avoir fait partager votre enthousiasme pour le roman de Peter Weil et sa pertinence et à être entendu de nos jours.
Oui, oui.
Ouais. Tout ce travail de réflexion.
Oui, oui. Et puis d'une lame qui est sublime, quoi. C'est magnifique.
Oui, c'est. Oui. Vous pouvez. Le nom du traducteur, de la traductrice.
Eliane Kaufholz-Mesmer, publié aux éditions Klingsic.
D'accord. Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir. Merci Marion.